Vous l'entendez ? L'appel de la forêt est de retour. Aujourd'hui, nous allons parler de la filière de qualité pour la sylviculture. La coupe et le produit fini en bois local. Donc tout un programme. Et voilà, notre rendez-vous mensuel, c'est le septième épisode. Donc voilà, on est toujours en automne 2023. Et aujourd'hui, nous sommes depuis les studios de Feltin. Voilà. Et donc j'ai le plaisir de recevoir Jean-Jacques, donc président de la SLGF Sud-Est Creuse.
Sud-Est Creusois,
merci. Donc bonjour Jean-Jacques.
Bonjour.
Voilà. Également donc Thomas
Berger. Bonjour.
Voilà, donc bûcheron. Et Antoine.
Bonjour.
Ébéniste. Voilà, donc on a trois personnalités de la région de Feltin qui sont installées depuis plus ou moins longtemps et qui ont des activités évidemment en lien avec cette filière de qualité. Voilà. Et donc, en dernier lieu, je parlais aussi du travail qu'on réalise aussi avec d'autres personnes du syndicat de la Montagne Limousine autour d'un répertoire cartographié des acteurs locaux. Voilà. Donc, pour toutes ces questions, sylviculture, travaux en forêt et produits finis. Voilà. Donc, comme d'habitude, donc pendant cette émission, voilà, moi, j'aime bien savoir un peu d'où vient un petit peu l'idée de s'intéresser aux forêts. Donc, par exemple, Jean-Jacques, quelle a été ta première expérience, tes premiers souvenirs en forêt ?
Moi, mes premiers souvenirs, c'est qu'en fait, j'ai quelques petites parcelles qui sont d'héritage familial, voilà, et ce qui m'a amené à m'intéresser à ces parcelles, à en faire quelque chose qui, depuis mes grands-parents, n'avait pas été entretenu, c'est en me promenant dans les bois de la commune, de voir s'intensifier les coupes rases, ce qui, d'un point de vue paysager, d'un point de vue sensibilité, me heurtait. Voilà. Et j'ai pas voulu en rester là, dire juste les coupes rases, c'est moche, on dirait un champ de bataille, et essayer de comprendre et de dire qu'est-ce que moi, avec mes petites parcelles, qu'est-ce que je peux en faire, moi, pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, parce que le temps de la forêt, on travaille plutôt pour les générations d'après que pour soi, sinon on fait beaucoup de bêtises. Et puis voilà, comment je peux faire ça intelligemment, comment je peux faire ça avec d'autres, voir ce qui se passe et
d'accord.
Essayer de comprendre surtout.
Très bien, c'est une belle démarche. On reviendra un petit peu là-dessus, sur ce qui est pour toi la sylviculture idéale, en fait, donc d'un point de vue peut-être plus technique et plus d'organisation autour de l'ASLGF Sud-Est Creusois. Un petit mot quand même sur ce que ça veut dire, ASLGF.
Ça veut dire Association Syndicale Libre de Gestion Forestière. Donc, c'est une association.
Oui.
Association syndicale, ça veut dire que ça regroupe des propriétaires. Pour être adhérent de l'association, il faut être propriétaire. Libre, ça veut dire qu'on met un petit peu ce qu'on veut dans les statuts, dans la limite des statuts cadres définis, non pas par la loi 1901 des associations, mais par le code forestier. Voilà. Et gestion forestière, donc c'est pour gérer des forêts. Donc voilà, c'est une association de propriétaires qu'on a montée sur ce secteur sud-est creusois, justement pour essayer de gérer ensemble et se former, s'informer, et réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire de nos forêts.
D'accord. Donc c'est également juste dans le thème de cette émission. Donc je te remercie beaucoup de ta participation. Et toi, Thomas, donc quel a été ton premier rapport sensible, personnel à la forêt ?
Moi, c'est vraiment un rapport professionnel à la base, parce que moi, je sortais de 4 ans d'études en menuiserie.
Donc déjà le bois.
Moi, j'étais dans le bois déjà.
Tout à fait. Et avant ça,
j'ai commencé à travailler à 16 ans en menuiserie.
D'accord.
Et mais moi, je viens de l'Anjou, oui. Où la forêt, c'est plutôt des petits bois.
D'accord.
Et moi, j'ai beaucoup traîné, du coup, dans les bords de Loire. Mais du coup, moi, les forêts dans lesquelles j'ai grandi, c'était plutôt les bois de bord de Loire.
D'accord.
Qui n'ont rien à voir avec la filière bois. Ouais. On est plutôt sur vraiment du sauvage et où... On est sur du fleuve, quoi.
D'accord. Et donc là, on ne touche pas trop aux...
Il y a très peu de
parcelles forestières.
Il n'y a pas de vraie filière. Après, il faut aller en Bretagne ou...
D'accord.
Pas vraiment en Anjou où il y a une filière bois.
OK.
Et puis du coup, après 4 ans d'études là-dedans, j'ai continué un peu. Et puis j'ai eu une période un peu difficile, je ne savais plus trop quoi faire. Et puis il y a eu une partie de hasard où d'un coup, je me suis réveillé un matin et je me suis rendu compte que je m'étais inscrit à une formation pour devenir bûcheron. Et j'ai vraiment mis une semaine. Ouais. En fait, je crois que j'ai réalisé que je m'étais inscrit à cette formation quand j'ai reçu la réponse de validation. Mais je m'en étais vraiment pas rendu compte. C'était vraiment en mode un jour je l'ai fait et puis c'est tout, quoi.
D'accord. Donc c'était quelque chose de l'ordre de la destinée, peut-être.
De pas du tout réfléchi, clairement. Ouais, ouais. De pas conscientisé en tout cas.
D'accord.
Et du coup, je suis parti 3 mois plus tard dans le sud de la France pour ma formation.
Okay.
Et là vraiment, du coup, j'étais en immersion totale et j'étais complètement novice sur la forêt.
Mmh.
Et puis voilà, j'avais 21 ans et puis je me suis lancé là-dedans.
Bon.
Donc voilà, bah, écoute, c'était vraiment mes premiers pas en forêt, c'était vraiment lié à ça, quoi, le hasard. Ça.
D'accord, très bien. Mais bon, le hasard fait bien les choses.
Bah, comme quoi.
Et aujourd'hui, tu es avec
nous. Et puis c'est un nouveau hasard qui a fait que je suis arrivé en Creuse,
oui.
Et que je me suis relancé dans la filière bois à nouveau. Ouais. Donc ça fait 2 hasards pour me pousser vers le bois, ça commence à faire beaucoup.
Ça commence à faire beaucoup, donc c'est bien, t'as ouais, bien fait de confirmer toutes ces premières intuitions. Mmh. Bon, on reviendra bien sûr sur vos expériences professionnelles plus en profondeur dans la deuxième partie de l'émission. Mais donc maintenant, Antoine, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et puis là aussi nous expliquer un petit peu quel est ton ressenti en forêt, tes premiers souvenirs et puis ce qui t'a conduit à ton métier actuel.
Eh ben, les premiers souvenirs, c'est les sorties aux champignons le week-end avec les parents quand j'étais gamin, quoi. Disons que ça m'a permis, ouais, d'aller de temps en temps en forêt et d'avoir un imaginaire qui m'est resté, voilà, de faire des balades en forêt, tout simplement. Mmh. Et pour le coup, moi, j'ai fait ensuite une école d'ingé, j'ai bossé un peu comme cadre.
Donc, rien à voir avec le bois?
Non, rien à voir avec le bois. En région parisienne. Et puis, bon, j'étais pas très satisfait de cette vie et de ce boulot. Et donc, j'ai fait une formation en ébénisterie.
OK.
Et voilà, c'est vraiment par ce biais-là que je me suis posé la question de la forêt, c'est-à-dire d'où vient le matériau que je travaille, en fait.
Ouais.
Et donc, ensuite, bah, quand je suis venu m'installer en Creuse, il y avait le fait que ce soit une région dans laquelle il y a du bois et des forêts faisait partie un peu de la démarche.
Mmh.
Et donc voilà, j'ai toujours voulu questionner de plus en plus ce matériau, d'où vient-il, parce que nous on a des planches qui arrivent à l'atelier,
oui.
Et voilà, ben avant c'est pas que des planches. Donc,
d'accord, bah, tu veux nous expliquer si tu les achètes localement, mais il me semble que toi aussi, quand on a parlé un petit peu avant, tu fais partie aussi de l'ASLGF Sud-Est Creusois.
Alors, forêt vivante du Sud-Est Creusois.
Ah, d'accord.
Ouais, tout à fait.
C'est quoi la différence, en fait?
Le nom complet, c'est ASLGF, forêt vivante du Sud-Est Creusois.
Merci.
On a mis longtemps à trouver le nom, et donc forcément, il est un peu dans le
c'est final. Un peu à rallonge, mais forêt vivante du Sud-Est.
Et donc, je suis allé un peu au bout de la démarche en achetant. J'avais trouvé des petites parcelles de forêt à acheter. Et l'envie initiale, c'était de me dire, tiens, je pourrais travailler des bois qui viennent de mes parcelles. Dans la pratique, ce sera probablement pas le cas parce que j'aurais cessé mon activité d'ici à ce que les arbres soient exploitables.
D'accord.
Mais ça m'intéresse quand même d'avoir ce lien avec le lieu où grandissent les arbres. Quoi.
D'accord. Donc le vivant, et puis tu verras bien si tu peux utiliser ces arbres plus tard pour ton activité. Mais ce serait quand même chouette d'arriver à ça. Ok. On va quand même donc aller plus en détail donc sur vos expériences professionnelles. On est là un petit peu pour ça, mais avant cela, donc on va faire une petite pause avec donc une chanson du dernier disque de Vincent Bruzel, qui habite par ici, du côté de Feltin, mais plutôt à Néou maintenant. Donc j'ai des informations de première main de la part de Jean-Jacques. Alors tu vas nous expliquer un petit peu après l'extrait qu'on va entendre, donc qui s'applique, qui s'intitule 2 mètres au-dessus de l'eau, et le morceau s'appelle Animaux.
À ce qu'on dit, c'est mon lagrouille de bandit. On dit qu'ils se font des maisons qui ressemblent à des buissons, au lieu de les faire comme il faut. Ils vivent comme des animaux. À ce qu'on dit, c'est mon lagrouille de bandit. On dit qu'ils vivent de cueillettes, leur pain ressemble à des noisettes, au lieu d'être fait comme il faut. Ils vivent comme des animaux. À ce qu'on dit, c'est mon lagrouille de bandit. On dit qu'ils n'ont pas de pognon, ils préfèrent les champignons. Ils auraient pu peindre Lascaux. Ils vivent comme des animaux. Qu'est-ce qu'on fabrique loin des cabanes bambou? Nos murs de briques, ça ne tient pas debout. Qu'est-ce qu'on fabrique loin des cabanes bambou? Nos murs de briques, ils ne tiennent pas debout. À ce qu'on dit, c'est mon lagrouille de bandit. Leur porte ouverte aux étrangers, ils leur offrent même à manger. Ils n'ont même pas d'enclos. Ils vivent comme des animaux. À ce qu'on dit, c'est mon lagrouille de bandit. On dit qu'ils pleurent pour les hêtres quand une forêt doit disparaître. Ils se prennent pour des oiseaux. Ils vivent comme des animaux.
Merci Jean-Jacques pour ce partage musical. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui est Vincent Bruzel et juste faire une petite présentation parce que moi je ne le connaissais pas du tout.
Ben, Vincent Bruzel, c'est un musicien, chanteur qui est originaire du Nord, de la région de Boulogne, et qui est installé à Felletin et dans la région depuis 5-6 ans maintenant.
Okay.
Voilà, d'accord. Qui est musicien, chanteur professionnel, qui s'intéresse à plein de choses, qui travaille notamment dans le domaine des musiques traditionnelles. C'est comme ça que je l'ai rencontré.
Parce que toi aussi,
et,
ben,
voilà, et j'ai présent. Fait des choses avec lui. Et puis voilà. Et sinon, il fait ses propres chansons, paroles et musiques.
Très bien. Merci Jean-Jacques. Alors, petit rappel de nos invités. Donc Jean-Jacques, donc présent avec nous, Thomas et Antoine. Antoine, excuse-moi. Jean-Jacques, donc, je reviens vers toi. Donc, tu as déjà un petit peu parlé de l'ASLGF Sud-Est Creusois, Forêt Vivante. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi c'est devenu donc évident pour toi d'avoir un syndicat de propriétaires et comment est-ce que tu as réussi à fédérer? Est-ce que tu étais le seul au départ ou est-ce que comment ça s'est fait? Est-ce que tu peux nous dresser un petit historique de ce syndicat?
On était plusieurs au départ. Voilà, donc on a monté ça en commun, notamment avec Antoine. On était au départ 7 membres fondateurs. Voilà. Okay. Et on s'était un petit peu rencontrés justement autour de la forêt. Et puis il y a eu une mission conjointe du CRPF et du PNR.
Alors CRPF, on va dire, donc c'est
Centre Régional de la Propriété Forestière, mmh, et du Parc Naturel Régional de Mille Vaches, qui a fait une mission forêt ancienne.
D'accord.
Voilà, sur le secteur, et il se trouve que les membres fondateurs, on avait des bois sur le secteur forêt ancienne. Donc okay, on a été conviés à une réunion de présentation, où à cette occasion-là, ils insistaient sur le fait de pas faire n'importe quoi sur ces endroits qui étaient quand même des endroits où il y a une microfaune, une microflore, un sol très particulier, un sol forestier. Depuis plus de 150 ans, c'est la définition
des
forêts anciennes. Et la chargée de mission du CRPF avait pour intention de, d'aider à la création d'un, d'une ASLGF sur le secteur. Voilà. Donc, plutôt dans l'idée de favoriser l'exploitation, sans faire n'importe quoi, mais quand même l'exploitation. Et en fait, on a saisi la balle au bon de cette aide qui était proposée pour se regrouper. Voilà. Parce qu'au départ, on n'était que des petits propriétaires, où on ne savait pas trop comment faire. Quand on a 2 ou même 4 hectares, des fois moins, c'est difficile de gérer sa forêt, sauf si on a quelques compétences, qu'on prend soi-même sa tronçonneuse. Oui. Sinon, économiquement, on ne sait pas trop quoi faire, comment s'adresser. Donc, on s'est regroupé essentiellement pour ça au début.
D'accord.
Voilà. Et puis, depuis, il y a des propriétaires plus importants qui nous ont rejoints. Donc, l'association s'adresse aussi bien à des petits qu'à des gros propriétaires. Ce qui nous intéresse surtout, c'est ce que les gens ont envie de faire de leur parcelle.
D'accord. Et vous arrivez à vous mettre d'accord Vous vous réunissez comment vous organisez votre travail?
Ça fonctionne comme une association, toutes les associations. C'est-à-dire qu'il y a une assemblée générale annuelle, il y a un conseil d'administration qui s'appelle conseil syndical, il y a un bureau, un président, un secrétaire qui est Antoine, une trésorière. Et puis on a des moments de rencontre. Une chose à laquelle on tient beaucoup, c'est des visites de parcelles. C'est-à-dire qu'on va régulièrement visiter les parcelles de certains adhérents qui veulent bien nous accueillir. Et puis on voit l'historique de la parcelle, comment ils l'ont acquise, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui est prévu. D'accord. Et puis à qui... on échange sur à qui s'adresser, sur comment faire, quand il y en a qui ont pu bénéficier de formation, ils en font part aux autres. Il y a aussi tout ce volet-là.
D'accord, donc c'est quelque chose qui évolue tout le temps, cette association. Vous êtes combien de propriétaires maintenant?
Actuellement, on est 24 propriétaires. Mm-hmm. On regroupe un petit peu plus de 100 hectares.
Oui, ça commence à faire, c'est bien.
Et on a quelques personnes qui sont à la porte de l'association pour adhérer bientôt. D'accord. Bon, ça se fait beaucoup, on touche beaucoup les gens par le bouche à oreille, parce que quelque part, ça engage les propriétés.
Oui.
C'est-à-dire que les propriétaires demeurent entièrement propriétaires. L'association n'a aucun droit sur les propriétés des adhérents, bien évidemment. Par contre, dans les statuts, il y a des principes qui sont marqués, auxquels on tient, qui est d'adopter une sylviculture à couvert continu, de favoriser le maintien de la biodiversité tout en permettant une production de bois de qualité, d'éviter un mode de gestion par coupe rase et par monoculture. À l'intérieur de ça, il y a diverses sensibilités des adhérents.
D'accord.
Voilà.
D'accord. C'est déjà un beau programme et c'est bien d'arriver à fédérer tous ces propriétaires, qu'ils soient petits ou plus gros.
De se donner en commun des outils pour y arriver comme il faut. Parce que, on en reparlera sans doute plus tard, mais c'est la difficulté dès qu'on veut sortir des sentiers battus, c'est le cas de dire, en forêt. Ça demande des compétences qui ne sont pas évidentes et on ne sait pas forcément où s'adresser, à qui s'adresser quand on est tout seul. On se sent souvent démuni.
Voilà. Je comprends. Alors justement, en parlant de compétences, donc nous avons quelqu'un de très compétent, Thomas Fiske. Donc tu connais à la fois le travail du bois et le travail en forêt, avec une partie exploitation. Aussi peut-être une partie gestion. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, donc tu as parlé de tes formations, si tu veux y revenir, n'hésite pas. Et maintenant, un petit peu décrit comment tu t'organises dans cette activité depuis que tu es arrivé en Creuse.
Alors, sur la partie formation, c'est un métier qu'on apprend, comme tous les métiers, beaucoup sur le terrain. C'est-à-dire que la formation, c'est plutôt un entracte. On va apprendre les bases, etc. Et puis après, c'est vraiment que sur le terrain, surtout pour un métier aussi particulier que celui de bûcheron, qui est vraiment un métier à part. Ouais. Il y aurait beaucoup de choses à dire, on pourrait faire une émission spécialement là-dessus, je pense.
Mais vas-y, tu peux déjà en parler, on a le temps.
Bon, bah, vous avez 2 heures devant vous. Mais non, mais. Et du coup, sur la partie formation, je ne sais pas trop comment prendre ta question, dans quel ordre. Mais en gros, pour revenir sur moi, mon expérience, c'est-à-dire que j'ai fait ma formation, on fait des stages, etc. Donc on découvre un peu différents styles, différents milieux dans cette forêt. On est très vite plus ou moins déçus. Et je pense que là, je peux parler au nom de pas mal de bûcherons. Ouais. C'est-à-dire que c'est quand même un métier très dur où on est absolument pas respecté, ça on peut le dire de manière générale, parce que les bûcherons, même nos employeurs, ne se respectent pas vraiment, parce que c'est un métier où les gens se donnent corps et âme pour pas grand-chose, pas de reconnaissance, pas de salaire, et avec une pression, suivant les personnes, beaucoup de pression économique. Alors on essaye, aujourd'hui la nouvelle génération, elle essaye de pas faire trop d'emprunts, etc., pour pas se mettre cette pression, mais la génération d'un peu avant en avait beaucoup, et du coup moi j'ai vu des gens complètement fous en forêt, des gens faire des choses mais incroyables, quoi, qui sont
en raison de cette
quasiment
pression,
inimaginables. Ouais. En raison, ils deviennent fous, les gens deviennent fous.
Quel que soit leur équipement, c'est-à-dire parce qu'on a quand même... Donc toi, tu as un équipement plutôt léger, mais est-ce que d'autres qui interviennent...
C'est un choix pour ne pas faire d'emprunt, etc.
Oui.
C'est vrai que nous, ça nous facilite beaucoup la vie de pouvoir faire du débardage en même temps quand on est bûcheron, pour des raisons économiques, pour des raisons pratiques sur le terrain. On peut prétendre aussi, avec les clients, de faire tout quasiment. Mais c'est des machines qui coûtent très cher. Donc, et puis, par expérience, je l'ai vu, des gens qui se lancent dans cette aventure-là. Voilà, il y a toute une pression économique parce que du coup, tu dois travailler tout le temps. Donc, tu vas t'affilier à certaines coopératives, ou tu vas,
qui apporte du volume,
ou à certaines personnes qui vont te donner beaucoup de travail. Mais enfin, il y a tout un truc. C'est là où je dis que ça mériterait une émission entière pour expliquer tout ça. Mais du coup, bref, et du coup, pour revenir sur juste mon expérience, moi, j'ai fait ça quelques années après ma formation. J'ai été vraiment assez choqué de ce que j'ai vu et
t'étais pas préparé à ça du tout.
J'étais pas préparé, mais on m'avait préparé quand même à la formation. C'est-à-dire qu'à la formation, dès le premier jour, le prof nous a dit « Ceux qui veulent devenir riches, vous pouvez partir tout de suite. Et ceux qui pensent vieillir vieux, vous pouvez partir tout de suite.
Bon. »
C'est-à-dire qu'un bûcheron, c'est à peu près 12 ans d'espérance de vie en moins que quelqu'un de classique en France. Et donc voilà, c'est énorme, on pose ça sur la table, et voilà, ce qui reste. Quoi.
Et t'as pas fui, t'es resté.
Eh ben si, j'ai fui, clairement. Après 3 ans de travail dans différentes entreprises après ma formation, j'ai complètement arrêté.
D'accord.
Physiquement, j'avais déjà des gros problèmes de santé, alors même que je venais juste de commencer ma carrière.
Ouais.
Et puis j'avais fait un peu le tour de différents styles d'entreprise et j'avais vu que c'était partout pareil, c'est-à-dire que on est vraiment pris comme une machine, c'est-à-dire que c'est comme un marteau qu'on balance par terre parce que c'est qu'un marteau. Ben, un bûcheron, c'est un peu pareil des fois.
D'accord.
Dans certaines entreprises.
Okay.
Alors je fais un cliché, hein, c'est pas partout pareil, mais on peut faire cette généralité par respect pour la réalité.
D'accord.
C'est vraiment, tout le monde n'est pas comme ça, mais on peut le dire quand même.
D'accord. Donc tu as été salarié pour plusieurs entreprises,
ouais,
et tu as préféré ensuite de mettre à ton compte.
Eh ben non, en fait, j'ai fait une grosse pause de à peu près entre 6 et 8 ans, je ne sais plus exactement,
où j'ai
fait d'autres métiers, et je me suis dit que plus jamais je retournerai en forêt. Et il ne faut jamais dire ça.
Non.
Et du coup, moi, je suis arrivé en Creuse donc, par hasard, et puis j'ai rencontré donc, Julien Cassagne, par hasard encore une fois. Et puis on a discuté, il m'a dit « ouais, il y a du boulot en forêt », il m'a parlé un peu de cette filière sylviculture douce que moi je connaissais déjà, moi j'avais fait ma formation dans le Tarn, où il y a déjà cette filière-là, mais qui est une toute petite filière, se mettre dedans, enfin voilà, le bois c'est particulier, il faut être introduit par des gens plus ou moins, etc.
Ouais.
Et donc il a fait un peu ce travail de m'introduire,
donc
je le remercie pour ça d'ailleurs. Et du coup, j'ai mis 6 mois quand même à bien réfléchir à si je voulais me réinstaller, parce que je savais très bien dans quoi je mettais les pieds. Et puis du coup, créer mon entreprise, etc. Et puis au bout de 6 mois, je me suis dit, je me lance, parce que j'avais envie, j'avais l'énergie. Et puis, j'y allais en connaissance de cause. Donc je savais que j'allais devoir serrer les dents. Mais j'avais envie pour les raisons qui ont été évoquées par Jean-Jacques aussi. Jean-Jacques. Le fait de vouloir aussi prendre ma place dans cette filière et de pouvoir avoir mon mot à dire aussi sur ces histoires de couperases. Je pense qu'il y a deux thèmes aujourd'hui qui sont très importants en forêt. Un qu'on parle beaucoup, c'est l'écologie.
Oui.
Et ça, c'est très important qu'on en parle. Le deuxième volet qu'on parle beaucoup moins parce qu'il y a plein de raisons à ça, c'est le volet social.
Oui.
Et le volet social au sens global, c'est-à-dire l'humain dans la forêt, mais aussi ceux qui y travaillent actuellement.
Oui.
Donc ce qu'on peut rêver de l'avenir sur l'humain en forêt, et ceux qui y sont déjà actuellement, qu'on parle très peu et où les conditions de travail ne sont pas foufou, ouais. Autant pour les bûcherons à pied que pour les débardeurs, que pour d'autres, d'autres personnes dans ce style-là.
Même ceux qui sont mécanisés, d'après tout, enfin plus mécanisés, sont aussi.
On est dans le même milieu, on fait pas le même travail, ouais. mais moi, je pourrais pas prétendre parler pour eux. Mais de ce que je comprends, c'est des gens qui eux ont fait ont pris ce risque de faire des gros emprunts, par exemple. Et au niveau des revenus, ça se chamaille pour avoir 50 centimes d'augmentation au mètre cube, etc. Alors qu'ils les méritent largement, et que c'est des gens qui vont travailler énormément, prendre beaucoup de risques pour un SMIC. Ouais. Comme pour nous. D'ailleurs, un SMIC, c'est des fois, certains mois, souvent d'ailleurs, un bon salaire. Du coup, voilà.
Ok. Donc, voilà. Je crois que tu as bien le tableau bien dressé, est magnifiquement bien dressé le tableau, mais
bienvenue.
C'est bien. Mais j'aime bien ce que tu gardes le sourire et donc t'as pas peur d'avancer. Donc,
faut avancer.
Okay. Bon, alors tu nous expliqueras un petit peu mieux avec qui tu travailles, mais donc peut-être que ton travail sert aussi à alimenter les productions et d'Antoine, puisque donc toi tu as besoin donc de bois et tes préférences c'est plutôt d'utiliser du bois local. Alors comment est-ce que tu fais par rapport à cette filière, comment est-ce que déjà ton travail, comment tu l'organises et voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, bien sûr. C'est un métier. Donc moi, je suis menuisier ébéniste, on va dire. J'ai démarré assez débutant, hein, puisque j'ai fait un cours du soir et puis j'ai passé mon CAP en candidat libre. J'avais 30 ans et c'était pas vraiment envisageable pour moi d'aller frapper à la porte d'un patron. Enfin, c'était tout à fait envisageable, mais j'aurais été pas du tout efficace par rapport à plein de profils de gens qui ont la vingtaine et qui ont déjà 2-3 ans derrière eux. Enfin voilà, moi j'étais vraiment débutant et donc j'ai fait le choix de me lancer tout seul. Donc j'ai beaucoup appris sur le tas. Là où ça a été chouette, c'est que ça m'a permis de me poser toutes les questions que je voulais. Et notamment, qu'est-ce que je travaille, qu'est-ce que je fais, avec quels matériaux. Et donc, comme beaucoup de métiers artisanaux, c'est des métiers où de plus en plus, le fonctionnement classique propose d'utiliser des matériaux industriels et de faire que de la pose ou des opérations minimes. Et moi, c'est pas ça qui m'intéressait. Quand on fait du mobilier, on peut utiliser beaucoup de panneaux, de contreplaqué, de médium, d'aglo. Alors moi, déjà, j'avais toujours fait le choix de jamais utiliser de médium ni d'aglo, parce que ça a des propriétés pas terribles, et puis en plus, ça a un impact fort, parce que c'est un peu le même problème que les granulés, si on veut résumer, quoi. C'est le même type de fabrication. C'est prendre des arbres et les réduire en poudre pour en faire des panneaux. C'est pas que ça, mais ça peut revenir à ça sur certains endroits. Et donc, par contre, les panneaux de contreplaqué sont un peu plus vertueux parce qu'on utilise quand même les propriétés du bois massif. J'ai utilisé du contreplaqué pour certains usages, quoi, faire des structures de meubles, des choses comme ça.
D'accord.
Ça m'a jamais convenu plus que ça pour plein de raisons. Et en plus, depuis toutes les histoires de Covid, d'inflation et tout, c'est devenu ça. Ça a vraiment pris un.
D'accord. Comme les pelés, en fait. Un petit peu.
Ouais, alors.
Dans quelle proportion
Ouais, c'est ça. Moi, c'était vraiment des proportions importantes. Bon, je n'ai pas fait les calculs plus que ça, mais ça a été le petit déclic qui m'a fait chercher d'autres solutions.
Et alors, ça donne quoi?
Comme j'avais déjà fait auparavant sur plein d'autres sujets, voilà, j'ai continué à essayer d'utiliser de plus en plus de massifs.
Okay.
Et donc modifier un peu mes conceptions de meubles, des choses comme ça, quoi.
D'accord.
Et donc de manière générale, depuis le début, j'ai toujours cherché à m'approvisionner en bois local. Ça faisait partie de ma démarche, comme je disais tout à l'heure, en m'installant en Creuse. Et donc je voulais pas m'amuser à bosser des bois exotiques ou même qui viennent d'autre part en Europe ou d'autres régions de France.
Tu arrives à t'approvisionner facilement?
Ouais, tout à fait. Donc il y a des scieries juste à la porte du Puy-de-Dôme, là, une grosse demi-heure d'ici, qui ont, on va dire, en permanence différents types d'essence en bois sec.
Okay.
Et eux, ils s'approvisionnent dans les départements alentours, on va dire. Donc notamment en Creuse, jusque dans l'Allier, par exemple.
Okay.
Et sinon, par ailleurs, j'ai fait plusieurs fois des achats de bois sur pied, où j'ai acheté auprès du propriétaire, payé un bûcheron, payé un débardeur pour abattre et ramener le bois à bord de route, et ensuite payé un transporteur pour emmener chez le scieur, et puis ensuite aller récupérer les plateaux sciés chez le scieur.
D'accord.
Et donc ça c'était rendu possible grâce au fait qu'on a encore des scieries locales artisanales, des bûcherons comme Thomas, des débardeurs. Enfin voilà.
Donc tu as réussi à bien choisir tes différents prestataires. Donc
Choisir plus ou moins, c'est du bouche à oreille, c'est un réseau de copains, c'est voilà, c'est ce D'accord. genre de format là. Mais oui, mais ça fonctionne et ça fonctionne bien.
Okay.
Voilà.
Ok. Et quelles sont les essences de bois que tu utilises?
Les grands classiques, c'est le frêne, le chêne. Mm-hmm. Ensuite le hêtre, pas mal de merisiers par endroit, et puis après ça peut être alors c'est vraiment sporadique quoi, de temps en temps j'ai une ou deux billes d'érable, des fruitiers, un peu de noyer, enfin voilà, c'est
d'accord. Et, voilà. Et tu peux utiliser n'importe quelle essence dans tes fabrications,
ou justement, je parlais tout à l'heure des matériaux industriels. Tout le but est de standardiser au maximum histoire que le boulot soit le plus facile derrière, on va dire, le plus... Comment dire, c'est pas que tu te poses pas de questions, mais d'une fois sur l'autre...
Tu sais à quoi t'attends.
Voilà, c'est ça, d'une fois sur l'autre, tu vas refaire à peu près le même boulot, donc d'accord. tu vas plus vite, etc. Oui, donc c'est, voilà, c'est,
en termes d'efficacité, ça
ouais, fonctionne. C'est ça. Et voilà, moi j'ai voulu prendre le parti inverse, c'est de me dire, il y a des bois, et il faut les valoriser, il faut en faire quelque chose.
D'accord.
Donc j'essaye de m'adapter au maximum au bois en question.
Okay.
Donc je fais notamment un certain nombre de réalisations en bois brut, et... où je vais laisser le bord de l'arbre, des choses comme ça.
D'accord.
Donc c'est le genre de choses qui plaît beaucoup. Okay. Et là, pour le coup, j'ai pas fait le dessin avant, ou seulement une partie. Oui. Quoi. C'est le bois qui va décider de la forme. Quoi.
Pour la forme, d'accord. Ouais. Ok, ça c'est vraiment intéressant. Ok. Et est-ce que tu trouves donc des clients, par exemple, est-ce que des clients te donnent les indications, par exemple, pour dire, bah, moi je veux telle essence, telle forme, comment est-ce que tu peux faire?
Alors c'est très variable. Sur le choix de l'essence, il y a rarement d'exigences fortes. On me demande éventuellement plutôt un bois clair ou pas.
D'accord.
Mais les clients ont plutôt tendance à me laisser le choix là-dessus.
D'accord.
Surtout que par moment, je leur dis que ça va dépendre aussi de ce que je vais avoir en stock ou de
bien
ce
sûr,
que je vais trouver.
Bien sûr.
Et voilà, après, non, sur les demandes, il y a vraiment des clients qui me laissent un peu carte blanche en me disant « Ah tiens, on a bien aimé ça sur votre site, nous on a besoin de ci, de ça. » Et puis ceux qui vont avoir déjà un croquis assez détaillé, qui ont bien réfléchi, les hauteurs de rangement, les choses comme ça. Voilà, c'est vraiment variable.
Juste dernière question quand même pour connaître un petit peu les produits que tu fais. Tu vas donc d'un petit meuble à un grand meuble. Enfin, quelles sont tes pièces que tu sors? Est-ce que tu peux nous les décrire? Alors, à la radio, c'est pas évident.
C'est un peu
toujours,
tout.
Mais...
C'est du sur-mesure, c'est du mouton à cinq pattes. Je m'adapte en fonction du client. C'est souvent une relation de confiance parce que même si je propose des dessins, des 3D, des visuels, ça reste quand même toujours différent du produit fini. Mais en gros, voilà, c'est de l'aménagement d'intérieur de manière générale. Donc ça va être des rangements pour la chambre, une cuisine, une bibliothèque. Ça peut être un bardage au mur, ça peut être tout un tas de choses, quoi.
Merci pour tous ces partages d'expérience. On va faire une deuxième pause musicale avec le choix de Thomas, Let It Grow d'Eric Clapton. Plant your love and let it grow.
Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow. Nothing left to show. Plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow. Let it grow.
Alors Eric Clapton, c'est Let It Grow, ça veut donc dire on laisse pousser, et on laisse pousser donc évidemment les arbres de nos forêts. Et donc dans l'appel de la forêt, bah, je remercie toujours Jean-Jacques, Antoine et Thomas d'être avec nous sur Radio Vassivière. Voilà, le troisième thème maintenant, enfin la troisième partie de notre émission, voilà, s'adresse plus à l'organisation de cette filière locale et alternative à la filière industrielle qui domine largement le territoire de la montagne Limousine. Alors, donc là, vous êtes déjà donc trois propriétaires, donc intervenants en forêt plus transformation du bois. Donc on a déjà quand même pas mal d'acteurs et c'est tant mieux. Mais j'aimerais bien savoir comment les acteurs s'organisent sur la montagne Limousine. Est-ce que Thomas, par exemple, tu pourrais nous dire tu t'es installé il y a peu de temps, mais depuis que tu es installé, est-ce que tu as trouvé facilement les autres, tes collègues qui travaillent comme toi, déjà en forêt ? Parce que la partie forestière, donc une fois que le propriétaire a donné un peu la confiance pour réaliser des travaux, après il faut les faire. Comment est-ce que tu t'organises vis-à-vis de cette filière ? Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Alors, c'est une recherche perpétuelle. C'est une recherche perpétuelle dans le sens où, déjà, nous, on est... on travaille en forêt tous les jours tout seul. Donc, c'est-à-dire que la recherche de nouveaux clients, la recherche, tout ce travail en amont, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et des fois, on rentre le soir et on a juste envie de décrocher totalement.
Ouais, je comprends.
Donc, c'est presque du travail qu'on doit faire à côté, qui est un travail normal quand on a son entreprise, mais ouais, qui est encore plus énergivore quand on fait les journées qu'on fait.
D'où l'importance de connaître
voilà,
déjà des gens.
C'est ça. Alors après, entre bûcherons, pardon, on ne se croise pas tant. Il y a ce problème de géographie, c'est-à-dire que moi, puis on ne s'entend pas tous forcément non plus.
Oui, bien sûr, vous n'êtes pas tous.
Et donc, pour se coordonner, pour travailler ensemble, moi, je connais des bûcherons, mais qui vont être à une heure de chez moi. Mmh. Donc, on va arriver à faire quelques chantiers ensemble, etc. Ceux qui sont peut-être à 20 minutes de chez moi, je ne les connais pas, parce qu'on ne s'est jamais croisés, parce qu'il y a des filières un peu différentes. Enfin, dans cette filière, il y a différents réseaux. Mmh. Et donc, c'est peut-être un réseau que je ne connais pas. Donc, ce monsieur ou cette madame, je ne la connais pas. Donc, ce n'est pas si simple de se coordonner, même si on y arrive quand même un petit peu. Après, pour revenir juste sur moi personnellement, moi je travaille pour l'ONF.
Oui.
Donc là, c'est un peu plus simple parce que chaque technicien a une région au niveau géographique qu'il gère. Donc
d'accord,
je peux connaître ce technicien, l'appeler, etc.
Okay.
Je travaille pour des gestionnaires, donc surtout pour des gestionnaires qui travaillent à couvert continu. Enfin, que pour des gestionnaires d'ailleurs qui travaillent à couvert continu.
Oui.
Mais là, c'est pareil, ils ont des forêts qui ne sont pas forcément à côté de chez moi. Mmh. Moi, maintenant, j'arrête d'aller sur des chantiers qui sont à plus d'une heure.
Je comprends.
Parce que au prix de l'essence, parce que sinon, ça fait des journées de 12 heures de travail en comptant les trajets. Enfin, ça devient plus vivable. Donc, ça me pénalise aussi sur certains chantiers qui pourraient être intéressants. Et puis, après, je peux travailler pour des exploitants.
D'accord.
C'est ce que je fais le moins pour l'instant, mais que j'ai envie de développer un peu plus. Mais
c'est
pareil.
Ça veut dire quoi avec les exploitants ?
Alors les exploitants, c'est ceux qui vont acheter le bois sur pied et qui vont après, soit ils ont leur propre bûcheron, soit ils vont en employer d'autres.
D'accord.
Et le truc, c'est que moi, je suis un peu chiant dans le sens où je refuse de faire des coupes raves, par exemple. Et puis juste éthiquement, j'ai pas envie de bosser avec des gens que je connais très bien qui peuvent être pas spécialement respectueux. Donc maintenant, je sais où je mets les pieds.
D'accord.
Du coup, c'est un peu dur pour moi de me présenter à des exploitants en leur disant bonjour, je fais pas de coupe rase, mais je suis bûcheron. Parce qu'ils vont dire bah c'est bien, c'est super, mais rentre chez toi parce que nous on fait quasiment que ça.
Ouais.
Et puis on veut pas de mecs qui nous disent nous on veut faire ça et pas ça.
Oui.
Ils veulent des gens, on les envoie et puis ils font le taf quoi.
D'accord.
Donc c'est un peu voilà. Pour moi, pour les exploitants, en tout cas, c'est un peu particulier. J'ai du mal à aller vers eux parce que je ne sais
comprends
pas trop comment me présenter.
Ouais.
Donc après, ça se fait plus dans un autre système de réseau où je peux trouver des gens. Et la partie qui est la plus intéressante pour moi, c'est la partie propriétaire qui m'appelle directement parce que c'est là où tout le sens du métier... Moi, je pourrais faire que ça, personnellement.
Oui, tu préférerais.
Ah ben, carrément. Parce qu'en fait, comme je dis, bon, c'est un peu une blague, mais en fait, les coopératives ou les exploitants... sur la filière, c'est ceux qui vont prendre l'argent, ils vont prendre le pactole. Les gestionnaires, ils prennent la renommée, parce que c'est eux qui sont en contact avec, et puis qui ont beaucoup de savoir-faire.
Oui.
Mais c'est eux qui ont les merci,
le côté
social, en fait, qu'on a tous besoin.
Bien sûr.
Et le bûcheron, il prend le travail. Et voilà. Et
d'accord.
Du coup, quand nous, on travaille avec des particuliers, on peut on peut avoir notre mot à dire,
oui.
C'est-à-dire on peut, parce qu'on a une expertise aussi, et donc sur des parcelles de 3, 4, 5, 6, 10 hectares, on sera aussi performant qu'un gestionnaire pour décider de certaines choses. Effectivement, sur 200 hectares, on ne l'est plus, parce qu'on ne gère pas tous les côtés administratifs, les demandes de sub, les PSG, etc.
Ils prennent quand même beaucoup de temps.
Les plans de gestion.
D'accord.
Du coup, mais sur des petites parcelles, moi j'invite les gens à appeler des bûcherons qui sont à côté de chez eux, et au moins faire connaissance.
D'accord.
Et ils peuvent être de très bons conseils, organiser des travaux du début à la fin et être tout à fait performants. Voilà. Donc pour moi, ce que je préfère, parce qu'on a notre place, même socialement, économiquement, on a notre place, parce que moi je vois quand je travaille pour des particuliers, j'ai toujours des énormes remerciements sur le fait qu'on n'est pas si cher, que c'est incroyable ce qu'on peut sortir comme énergie en une journée et qu'on le fait en plus toute l'année. Et que quand on travaille pour des professionnels qui ont un regard beaucoup plus froid sur notre travail, les merci sont très très rares et on est toujours trop cher. Et notre travail n'est pas vraiment, les gens considèrent toujours que presque on n'a rien fait de notre journée, quoi.
D'accord.
J'exagère à peine. Donc les particuliers nous permettent de valoriser notre travail pleinement.
Donc reconnaissance et en plus travailler beaucoup plus proche des besoins du propriétaire.
Et puis nos compétences peuvent être juste verbalisées. On peut donner nos conseils, parce que dans le reste de la filière, personne ne nous demande ce qu'on en pense de certains chantiers. On nous envoie avec, donc on a des donneurs d'ordre, qui a un nom très barbare, mais c'est,
mais c'est
tous les gens qui nous appellent pour des chantiers, c'est des donneurs d'ordre, avec des ordres, donc fait comme ça, on a prévu ça.
D'accord.
Et nous, on ne peut pas du tout donner notre point de vue.
D'accord.
Et ce qui est du coup un tas de compétences qu'on a qu'on ne peut pas valoriser.
D'accord. Alors une dernière question, est-ce que tu connaissais, avant de venir à cette émission, la SLGF Sud-Est Creusois?
Pas tant, c'est marrant, mais comme d'habitude, en fait, on a toujours un train de retard.
Voilà.
C'est-à-dire qu'on s'est croisés sur différentes réunions ou événements, certainement liés à ces histoires de coupe rase, de forêt continue et tout. Mais on s'est vu de vue, on s'est peut-être entendu parler, mais voilà.
Bon. Tu as peut-être trouvé un nouveau client.
Fantastique. Merci Laurent.
Oui, je t'en prie. Et donc, Antoine, qui fait donc partie de la SLGF, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis sur l'organisation de ces différents acteurs?
Eh ben, justement, je voulais juste rebondir sur ce que disait Thomas et pousser un peu la réflexion, parce que souvent, le monde de la forêt et l'exploitation du bois est vu comme un truc un peu flou, méconnu, on ne sait pas trop à qui s'adresser, etc. Moi, je trouve qu'il faut essayer de le voir un peu comme le fait de faire des travaux dans une maison, où pour le coup, la plupart des gens ne savent pas faire, mais font appel et font faire, et finissent par se débrouiller, même si à la base, ils ne savent pas comment faire. Je vois ça un peu pareil dans la forêt. On peut prendre l'annuaire et contacter un bûcheron et lui demander de venir intervenir dans sa forêt. Et justement, je voulais pousser un peu la question, parce que je trouve que ça, c'est presque l'étape un peu facile à imaginer ou à faire. On va faire venir couper des arbres à quelqu'un. Et souvent, dans nos régions, on a soit des endroits un peu escarpés, soit des parcelles un peu écartées de la route ou du chemin. Et la grande question, c'est comment on fait pour ramener des troncs jusqu'à un endroit carrossable où un camion va pouvoir venir les chercher. Et je me demandais, donc toi, est-ce que tu fais le débardage ou est-ce que tu interviens avec des débardeurs?
Via Fête et Racines, qui est en Corrèze, par exemple, on est en train de travailler sur le fait qu'ils ont un super tracteur pour débarder. Bref, je ne vais pas vous expliquer tous les détails,
mais l'idée, c'est une partie capitale.
Voilà, c'est de mettre en commun du matériel. Après, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que si nous, on n'a jamais de contact avec des propriétaires qui nous mettent sur le fait qu'on n'est pas totalement équipé, on ne s'équipera pas. Besoin d'avoir ce début de contact, et moi c'est ce que j'ai en ce moment avec certains propriétaires qui me disent on a tel chantier, etc. Moi ça m'oblige à prendre du temps à trouver un tracteur, à trouver des solutions, mais s'il n'y a pas ce truc là en fait, je ne me lance pas là-dedans. Et en fait c'est ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire plus vous contactez des bûcherons, plus les bûcherons vont être autonomes pour pouvoir répondre à votre besoin. Il faut qu'il y ait ce démarrage, en fait.
Et est-ce que tu trouves facilement justement des débardeurs locaux ou d'autres acteurs dont tu aurais besoin et qui compléteraient le travail que tu fais?
Alors, le nombre de tracteurs qu'il y a pour au fond d'échange, je pense qu'il y en a pas mal. Le problème, c'est que encore une fois, on est dans une filière. Il faut qu'on arrive à en sortir de cette grosse filière. Cette grosse filière, c'est des grosses machines très calibrées, très standardisées, et qui doivent être très rentables. Donc une fois qu'elles ont passé un certain âge, ils sont vendus à quelqu'un d'autre ou à des agriculteurs parfois. Et du coup, il faut arriver à récupérer un peu ce matériel et à sortir de... Parce que par exemple, moi, si j'ai besoin d'un tracteur, je vais pas appeler un débardeur qui travaille pour la filière, parce que c'est énorme, les engins qu'on a aujourd'hui. Il va falloir d'autres gammes de produits.
Et donc peut-être des tracteurs d'agriculteurs ?
Bah oui, alors qu'ils sont pas totalement équipés, malheureusement, ouais. C'est ça, c'est que tout est très technique. Hein, ouais. Il faut vraiment des outillages spécifiques. Mm-hmm. Mais pour répondre rapidement à la question, en gros, ça prend du temps, tout ça. Mais on n'a pas le choix que de lancer le mouvement, et on le voit aujourd'hui, moi depuis 3 ans que je me suis installé, c'est une discussion qui est en perpétuel, qui revient constamment, c'est comment on fait pour trouver les équipements qui sont les plus coûteux, les plus difficiles à trouver, mais en fait ça se fait, mais en fait tant qu'on se pose la question sans qu'il y ait un réel besoin... Ouais. Et ben en fait on va pas plus loin.
Bien sûr.
Mais dès qu'il y a un besoin, bah moi ça m'oblige, par exemple, là je suis en train de voir pour passer mon permis remorque, pour pouvoir aller chercher un tracteur qui est à 1 heure de chez moi, une heure et demie. Okay. Mais ça peut être rentable pour un chantier d'une semaine, etc., etc. Mais mais parce qu'il y a une demande. Okay. S'il y en a pas, en fait je me pose la question, puis après je passe à autre chose.
Bah, évidemment, c'est tout à fait humain. Et donc toi, Jean-Jacques, en tant que propriétaire, comment vois-tu ces solutions émerger?
Ben justement, ça se rejoint complètement. C'est-à-dire que nous, notre association, elle est jeune. Hein, je veux dire, pareil, elle a 3 ans. Donc, jusqu'à présent, on a fait un plan de gestion, parce que ça, c'est ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure. Donc, ça permet aux adhérents, même ceux qui sont des petits propriétaires, d'avoir aussi un plan de gestion, d'avoir les conseils d'un technicien, d'un gestionnaire indépendant. J'insiste là-dessus, indépendant, c'est très, très important, c'est-à-dire qu'il ne soit pas affilié à un marchand de bois, une coopérative, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre intérêt que de développer la forêt et de satisfaire le propriétaire.
Et de faire un travail tout à fait correct.
Et d'autre part, on est très attaché à avoir à travailler avec une filière artisanale et locale. Ça nous semble complètement indispensable par rapport au type de gestion qu'on veut, c'est-à-dire sylviculture à couvert continu, c'est-à-dire vraiment une gestion pied à pied. Et ça, voilà, on voit vraiment pas qui d'autre qu'une filière artisanale et locale peut répondre à cette demande-là. Et donc... nous, notre problème actuellement, c'est justement d'arriver à rendre visible notre demande. Donc ça rejoint complètement par l'autre bout ce que tu dis, c'est-à-dire dire ben, nous on recherche des entreprises, des artisans qui peuvent faire ça. Et comment on peut le montrer, et comment on peut faire savoir à des gens comme toi qui recherchent justement à travailler de cette façon que... on est là, voilà, et que nous, bon, je veux dire, à notre modeste échelle, voilà, on représente 100 et quelques hectares. Donc voilà, imaginons qu'il y ait 3-4 organisations de propriétaires pareilles, ça fait déjà un bon début pour quelqu'un qui veut travailler dans cette dimension-là. Et puis tout à l'heure, tu parlais, Thomas, justement de la difficulté des gens qui travaillent en forêt, des bûcherons, c'est-à-dire qu'ils sont complètement pressurisés, hein, parce que, comme on le disait tout à l'heure en discutant entre nous, voilà, le propriétaire, il veut vendre son bois le plus cher possible, le marchand de bois, il veut l'acheter le moins cher possible, donc du coup, c'est ceux qui sont entre les deux qui sont réduits à peau de chagrin. Et que nous, en tant que propriétaires, on est bien conscient qu'on ne peut pas demander à des bûcherons ou à des débardeurs de faire du bon boulot, de faire attention, de ne pas abîmer les arbres autour, si on les paye au lance-pierre. Et qu'on est intimement persuadé qu'il vaut mieux mettre un petit peu plus cher au départ, payer un peu mieux les gens qui travaillent en forêt, de sentir qu'ils sachent qu'ils sont respectés pour faire un bon boulot, et que ça, on le retrouvera très vite en valeur pour notre forêt. Parce que si pour couper 4 arbres, il y en a 15 autour qui sont abîmés, on n'a pas gagné grand-chose.
Si je peux me permettre de rajouter un petit truc par rapport à ça. Ça, c'est vital, ce qu'on dit là, pour les bûcherons. Mais on l'entend beaucoup, et des fois, ce n'est pas totalement mis en application. Et ce que je conseille pour tout le monde, c'est de toujours vérifier. C'est-à-dire qu'il y a les discours, il y a les actes. Et que même des fois, l'argent ne fait pas tout. C'est-à-dire, comme je parlais tout à l'heure, que le bûcheron ait son mot à dire sur plein de choses, en fait, dans ce travail-là. Des fois, quand on a un gestionnaire ou qu'on travaille même avec une coopérative ou n'importe quoi, qu'on s'est engagé avec ces techniciens de payer un peu mieux les bûcherons, ça désengage pas le fait d'aller voir le bûcheron et lui demander ce que lui, il en pense de son salaire, des conditions de travail, etc. Parce que le fait de trop déléguer, des fois... on se rend pas compte qu'en fait on pensait avoir donné un peu plus d'argent pour le bûcheron, mais que lui soit c'est parvenu à lui, soit tout est pas aussi beau que ce qu'on croit. Du coup, je pense que le point vital, c'est de revenir en contact constamment avec les gens qui sont sur le terrain, d'aller les voir. N'hésitez pas à nous ramener des cafés le matin quand il fait froid. C'est encore jamais arrivé en 6 ans de bûcheron, mais on peut toujours espérer.
Donc il y a vraiment un modèle économique différent à mettre en place et qui est tout à fait abordable.
Rencontrer un contact et communiquer. Parce que nous, on a besoin de partager beaucoup de choses avec les propriétaires. Et les propriétaires aussi ont besoin de nous partager des choses sur ce qu'ils ont envie dans leur forêt ou pas. Et nous, voilà. Et du coup, je pense que ce contact, il doit se refaire. Et les intermédiaires sont importants, il y en aura toujours. Mais en tout cas, ce qui n'empêche pas de venir rencontrer les bûcherons, on n'est pas des barbares.
Bien sûr. Et surtout de mettre en regard donc, l'intervention du bûcheron par rapport à l'avenir de la forêt, parce que c'est pas n'importe quel travail que vous faites. Sinon, on fait appel à une abatteuse et puis le travail est fait en quelques minutes, ou presque.
On fait pas aujourd'hui, on n'est même plus en concurrence avec les abatteuses, parce que les abatteuses font travail dans certains types de forêts, nous on prend le reste, on va dire.
Ouais. D'accord.
Mais c'est ce qui fait qu'il y a quasiment, il y a de moins en moins de bûcherons. Mais, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas une réelle concurrence. C'est-à-dire qu'on fait deux choses différentes.
D'accord. Ok. Jean-Jacques, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, je voulais rebondir quelque chose qu'a dit Antoine tout à l'heure. La confiance, effectivement, c'est vraiment, c'est ce que tu viens de dire finalement. C'est un mot-clé, c'est-à-dire que nous, en tant que propriétaires, on recherche d'avoir une relation de confiance avec les gestionnaires, avec les bûcherons, avec les débardeurs, avec les sieurs, c'est-à-dire que c'est d'avoir un réseau de gens en qui on sait qu'on peut avoir confiance. C'est-à-dire qu'on sait que s'ils proposent quelque chose, c'est qu'a priori, c'est sans doute ce qu'il y a de mieux pour nous, pour la forêt, pour... voilà. Donc c'est cette relation-là qui me semble capitale. Et c'est cette chose-là qu'on peut difficilement avoir justement avec une filière industrielle. Parce qu'on a affaire à des gens... c'est pas les gens qui travaillent là-dedans localement en cause.
Ce sont leurs impératifs économiques.
Oui, c'est leurs impératifs économiques. C'est les gens qui sont sans doute au-dessus et dont les intérêts ne sont pas du tout... De savoir qu'est-ce qu'il y aura derrière eux, hein, malheureusement.
Ouais, j'entends tout à fait. Bon, écoutez, on va conclure cette partie pour revenir un petit peu. On va conclure donc dans un instant. Juste pour dire, j'avais signalé quand même au début de l'émission que le syndicat de la Montagne Limousine travaille aussi à développer en fait tout un réseau. Donc on parle de communiquer, donc on le fait aujourd'hui. Mais bon, c'est une émission de radio, mais il va falloir aussi peut-être créer ce véritable répertoire réseau à cartographier sur la montagne Limousine. Donc voilà, il y a un travail qui est fait, qui est indispensable pour vivre mieux avec et pour la forêt. Voilà, donc une petite pause musicale, donc ça s'appelle Home Again, donc de retour à la maison localement, et c'est Michael Kiwanuka.
Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told
and mine just before. So I'll close my eyes, we'll look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, and the tears will clear. Then I'd feel no fear. Then I'd feel no way. My past would be made straight.
Home again, nous sommes de retour à Felletin, donc dans la branche locale de l'Appel de la Forêt. Voilà, donc en très peu de temps, parce que l'émission va vite se terminer, malheureusement. Est-ce que, Antoine, tu peux nous dire un peu quelle est ta démarche? Parce qu'on a bien compris, Jean-Jacques, bah, il a le souci du propriétaire à rechercher des intervenants qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Thomas, lui, il est pris entre un propriétaire, l'ONF, enfin, ou des donneurs d'ordre qui ne sont pas toujours faciles non plus. Donc on a bien conscience de vos difficultés. Mais toi, Antoine, comment est-ce que tu t'organises justement pour sélectionner tes partenaires?
Alors, c'est beaucoup du bouche à oreille. Ça va peut-être permettre de mettre en lumière un des métiers dont on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, c'est les gestionnaires forestiers. Oui. Moi, il se trouve que voilà, j'ai un copain qui est gestionnaire forestier, donc il m'est arrivé plusieurs fois, alors je ne saurais même pas dire si c'est lui qui m'a dit « tiens, j'ai peut-être un plan » ou si c'est moi qui lui dis « tiens, je cherche du bois ». Et donc voilà, il y avait une quinzaine de grumes à acheter sur une coupe. Où il a travaillé pied à pied, il avait fait un travail de sélection. Et donc, il m'a mis en relation avec le propriétaire à qui j'ai acheté les bois. Et puis, dans son carnet d'adresses, il avait des gens comme Thomas qui ont fait, donc, comme on disait tout à l'heure, le bûcheronnage, le débardage, etc. Et voilà, donc c'est gestionnaire forestier. On peut parler du COFEL. Ils se sont regroupés à plusieurs sur le Limousin. Donc, ça veut dire Collectif Forestier Environnement Limousin. D'accord. Et donc ils partagent tous cette envie de travailler à couvert continu et de favoriser la forêt diversifiée, quoi.
Et vivante. Donc voilà. ce qui revient exactement à ce dont on parle aujourd'hui. Eh ben, on va faire en sorte de prendre bien sûr soin de nos forêts qui, on l'espère, vont encore continuer à être vivantes et bien sûr aider les acteurs qui en vivent. Donc voilà, l'émission va bientôt se terminer, donc je vais faire un dernier tour de table. En ce qui concerne Jean-Jacques, est-ce que tu peux nous donner les coordonnées très rapidement pour s'il y a des propriétaires qui souhaitent te contacter ou contacter d'autres propriétaires de l'association, comment est-ce qu'ils peuvent faire?
Eh ben, il y a un numéro de téléphone qui est 06 14 30 20 41. 06 14 30 20 41.
C'est noté.
Voilà, pour tous les renseignements. Qu'on est sur un secteur large sud-est creusois, allant depuis Baville jusqu'au camp de la Courtine, Crozes, allant jusqu'à Vallières.
Vraiment le sud-est creusois élargi. D'accord. Bon, ben merci pour ces infos. De toute manière, toutes ces coordonnées seront sur la page web de Radio Vassivière, donc l'Appel de la Forêt. Pour toi, Thomas, donc comment est-ce qu'on peut te contacter?
Sur Internet, en général, donc Bernier Thomas, entreprise Nos Forêts Denses, nosforêtsdenses@gmail.com pour ceux qui veulent envoyer un mail.
Voilà, oui.
Et moi, en fait, sur Internet, je suis encore basé à Gensioux parce que je viens de déménager récemment.
D'accord.
Mais actuellement, je suis sur Felletin. Enfin, je serai sur Felletin maintenant, mais sur l'annuaire, si vous me cherchez, je serai encore à Gensioux.
Très bien. Ben, c'est noté, et encore une fois sur la page web. Et toi, Antoine, est-ce que...
Moi, je suis le plus local de l'étape, puisqu'on voit mon atelier à travers la fenêtre du studio. Donc, je suis à Felletin, juste à côté de la gare. Et donc, on me trouve, pareil, sur Internet, antoinemazurier.com.
Tout attaché.
Voilà.
D'accord. Bon, les coordonnées, bien sûr, y seront. Et ben, comme d'habitude, donc, n'hésitez pas à réagir ou laisser des commentaires sur le répondeur de Radio Vassivière. Donc, je donne les numéros. Vous le connaissez tous par cœur, bien sûr. C'est le 05 55 64 71 11. Alors, je tiens à remercier Jean-Jacques, Antoine et Thomas qui ont bien répondu à l'appel de la forêt aujourd'hui, et bien sûr aussi Fabien pour la régie et le montage de ce nouvel épisode aujourd'hui. Et dernier point aussi, n'hésitez pas aussi à écouter les chroniques de Lionel qui intervient avec l'Onde du Bois et qui nous donne aussi beaucoup d'informations tous les lundis pendant la midinale. Voilà, ben, c'était donc Laurent. On se retrouve bientôt pour un autre thème à choisir avec de nouveaux invités. N'hésitez pas, si vous avez des idées, vous pouvez donc appeler Radio Bassivière. Voilà, on reste bien sûr à l'écoute de la forêt qui nous appelle encore.